Je suis sûr que c'est très bon. Regardez. Des nachos. Une orange. Ça, ça a l'air joli. C'est quoi ce truc? Ah oui, un œuf. Ok, c'est pas si mal. Voyons un peu quel genre de sandwich on leur donne. Ils n'arrêtent pas de dire qu'il n'y a pas de viande dedans. Et où est l'intérieur de cette chose?
C'est tout ce qu'ils ont.
Mais où est la viande?
Oh, vous n'avez pas de chance. Prenez-en un autre.
Oh. Malgré la présence de notre caméra, il n'y avait rien non plus dans celui-là. J'ai 14 ans.
Vous avez fait quoi?
Défoncer une porte. Et vous?
J'ai déconné pendant ma liberté surveillée.
Quel âge avez-vous?
J'ai 16 ans, presque 17.
Moi, j'étais en liberté conditionnelle. J'ai 17 ans, bientôt 18.
Possession de marijuana, j'ai 16 ans.
Moi, j'ai 14 ans. Pourquoi je suis là? Pour meurtre, mec.
Le calme du samedi soir, comme dans 347 villes américaines, Phoenix, capitale de l'Arizona, impose un couvre-feu pour lutter contre la violence des adolescents. Après 22 heures, tout jeune de moins de 16 ans ne peut sortir sans être accompagné d'un adulte. À Phoenix, on le surnomme Eddie. Le sergent Edouard Rodriguez, 38 ans, est chargé de faire respecter le couvre-feu. Avant chaque mission, il s'équipe comme s'il devait affronter les criminels les plus dangereux.
Je porte un gilet pare-balles. Il peut encaisser jusqu'à 9 balles. Des balles de n'importe quel calibre. Et aussi les coups de couteau. Il peut me sauver la vie et me protéger, même des coups de poignard dans le dos. Ça, c'est la ceinture où je garde toutes mes munitions. Et les menottes, je les accroche dans le dos. Et je peux aussi utiliser une matraque télescopique.
Quatre nuits par semaine, Eddie parcourt la ville à l'écoute de ses radios. Avec son équipe, il traque les jeunes qui traînent en ville, les 16-18 ans que la loi oblige à rester chez eux. Suspect numéro 1, les bandes de jeunes. Si un groupe d'adolescents n'est pas accompagné d'un adulte, il est aussitôt interpellé, leur identité vérifiée. Qu'est-ce que vous cherchez?
Des pistolets, des armes, de l'alcool, de la drogue, tout ce qui est illégal.
On fouille d'abord la voiture, on parle aux jeunes ensuite.
Et tu as vraiment un permis?
Oui, monsieur.
Tout ce que tu donnes est correct?
Oui.
Ce qui est bizarre, c'est que l'ordinateur ne trouve rien à ce nom-là.
Non, j'en ai un.
Tout ce que tu dis est vrai? Prénom, nom, tout est correct? Ok, merveilleux. Va t'asseoir.
What's the GGB? Oh, Golden Gate. Way down there. That's, we can take that.
En empêchant les jeunes de traîner le soir, on est sûr au moins qu'ils ne se feront pas agresser. Et en même temps, si on tombe sur des voyous, on les arrête, ce qui leur évitera de commettre des crimes.
C'est chiant.
Pourquoi?
Ça nous empêche de faire ce qu'on veut.
Si on va en boum ou en boîte, on rentre tard, ils nous arrêtent. C'est vraiment pas cool, je suis contre.
Ce samedi soir de juillet, après 22 heures, 15 jeunes étaient arrêtés en sortant de discothèque pour violation du couvre-feu. Pour ne pas traumatiser plus qu'il ne faut les adolescents arrêtés, les policiers se sont installés dans un centre de loisirs aménagé. Un dépôt, mais sans cellule. Leur travail, téléphoner aux parents des jeunes fêtards.
Hey Joe.
Bonjour, je suis l'officier web de la police. Comment tu prononces ton nom ? J'ai Shulawi. Vous connaissez Shulawi ? Hilario ? Bon, elle a été arrêtée pour violation du couvre-feu. Oui, elle est arrêtée. Il parle anglais ? D'accord. La ville de Phoenix a un couvre-feu, vous savez, et elle n'avait pas le droit de sortir. Et elle était dehors après minuit. Elle n'a que 15 ans et selon la loi, elle ne doit pas sortir après 22 heures. Et c'est pour ça qu'elle a été interpellée, parce qu'elle était dehors après l'heure légale. Alors, vous venez de la chercher et le plus tôt sera le mieux.
En vous regardant, on a l'impression que vous faites du babysitting.
Du babysitting, oui, en quelque sorte. On doit attendre que les parents viennent ici les rechercher. Elles ne peuvent pas sortir sans qu'un adulte responsable vienne les récupérer.
Qui venez vous chercher ? Celle-là ? Vous avez une carte d'identité ?
Les parents devront payer à la ville une amende de 400 francs. Ils devront aussi aller avec leur enfant à l'école pour un cours d'éducation civique. Officiellement, dans la majorité des villes où le couvre-feu existe, la violence juvénile a diminué en quelques mois de 20%. Dans d'autres grandes villes américaines comme Houston, où le couvre-feu est également en vigueur, quand un adolescent est arrêté plusieurs fois de suite la nuit, il passe quelques jours dans une maison de redressement. On l'a surnommée la prison douce. L'année dernière, 8000 adolescents ont transité ici. Au premier étage, les garçons, souvent des pickpockets, fugueurs ou taggeurs. Au sous-sol, un tribunal animé par le juge Véronica Guérin. Chaque mineure comparaît moins d'une semaine après son arrestation devant elle. Elle seule peut décider s'il reste dans cette maison de redressement, s'il retourne chez lui avant son procès ou s'il est libéré. Son but, montrer aux adolescents que désobéir a un prix. Christopher a 16 ans. Il a violé le couvre-feu à 3 reprises. À ses côtés, un avocat commis d'office et sa mère.
Jurez-vous solennellement de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Que Dieu vous garde. À quelle heure rentre-t-il chez vous, madame ?
Minuit, 2 heures.
2 heures du matin ?
Ouais.
Il fait quoi ?
Il voit des filles, il traîne avec elles dans la rue. Leur mère m'ont téléphoné pour me demander si mon garçon était rentré. J'ai été voir dans sa chambre. Il n'était pas là.
Ça fait combien de temps que cela dure ?
Ça s'est passé 2 ou 3 fois.
Qu'est-ce qu'il fait d'autre à la maison qui ne va pas ?
Sa chambre. Elle est couverte de graffiti.
Pourquoi tu fais ça ? C'est la maison de ta mère. Pourquoi tu détruis la maison qu'elle met à ta disposition ? Quel âge as-tu ?
16 ans.
Ok, si tu fais tout ça, dis-moi pourquoi je devrais te laisser partir et ne pas te mettre en prison. Tu as le privilège d'avoir été laissé en liberté pour bien te comporter. Si tu fais le contraire, si tu n'es pas sage, ça veut dire fini la liberté. Tu comprends ce que ça veut dire, la liberté ?
Oui, mais j'essaie d'avoir un petit boulot. Ma mère devait m'amener hier, mais elle ne l'a pas fait. Ça m'aurait permis de payer mes amendes.
Si ta mère doit travailler, te surveiller et payer pour tes amendes, ça ne va pas marcher. Tu comprends ? Chaque soir à 8 heures, tu dois être chez ta mère, sauf si tu travailles ou si tu sors avec elle ou avec un adulte qu'elle connaît. Si tu ne coopères pas, tu vas perdre cette liberté parce que tu seras en prison. Ok ?
Selon les études réalisées, 5 adolescents sur 6 présentés devant ce genre de tribunal ne reviennent jamais. La leçon leur suffit. Ce matin-là, ils étaient 40 à être jugés pour désobéissance.
Souvent aujourd'hui, les deux parents travaillent. La situation à la maison n'est plus ce qu'elle était auparavant. La structure familiale a énormément changé en Amérique, ce qui est une explication fondamentale dans beaucoup de cas de délinquance juvénile. L'éducation des enfants est souvent négligée. Si on doit parler de solution idéale, il faudrait commencer à s'attaquer au problème le plus tôt possible. D'abord à la maison, ensuite à l'école, avec les professeurs. Les enfants doivent apprendre à rendre des comptes. On doit le leur apprendre à la maison, à l'école, partout. Et si on leur inculque cela dès l'enfance, on peut y arriver.
Prévenir, informer dès le plus jeune âge, c'est ce que l'on fait déjà en Floride. À Jacksonville, à 300 km de Miami, une fois par semaine, les moins de 13 ans accompagnés d'un parent sont conviés à visiter une prison. La méthode s'inspire de Disneyland. Chacun porte un badge avec son nom dans le rôle du gentil animateur, un gardien-chef de la prison.
Ok. Fermez les yeux, fermez tous les yeux et respirez bien par le nez. Maintenant, ouvrez les yeux. Est-ce que ça sent la bonne cuisine de maman ? Ou son parfum ? Non, pas vraiment, hein. Si vous allez aux toilettes, que vous soyez un garçon ou une fille, et ici il y a beaucoup d'hommes, vous pouvez y aller, mais seulement ici. Il n'y a pas de rideau, pas de mur, pas de porte. Tous les gardiens peuvent vous regarder aller aux toilettes. C'est cool, n'est-ce pas ? Dès que vous franchissez cette porte, vous perdez votre liberté, mais aussi votre intimité.
Dans ce couloir, d'un côté, les enfants visiteurs, de l'autre, les détenus dans cette prison. Ils sont 2000.
Une fois arrivé, vous voyez l'infirmière et vous venez ici où il y a le téléphone. Levez la main ceux qui pensent qu'ils n'ont droit qu'à un coup de fil. Tous ceux-là ont vu trop de films. En fait, vous pouvez passer autant de coups de fil que vous voulez. Le petit problème, c'est que c'est en PCV seulement. Et quelqu'un doit payer pour vous. Et chaque fois que vous appelez, ça coûte au minimum 10 francs à la personne qui vous répond. On appelle cette chaise une chaise de force. Une chaise de force. Chaque fois qu'on tombe sur un voyou un peu agité, dans cette prison, on est autorisé à utiliser du gaz lacrymogène. Imaginez le poivre le plus fort que vous ayez goûté. Eh bien, c'est 10 fois plus fort une fois aspergé dans vos yeux. Bien, j'ai besoin d'une mère et de son fils.
What's your name?
Ton nom?
Eric,
je peux t'utiliser? Tu peux m'aider? Alors imaginons qu'Eric a été aspergé. Assieds-toi, Eric.
Okay, now, Eric, you can't
tu ne peux rien voir, n'est-ce pas?
And I'll start to
eh bien, maintenant, je t'attache avec les ceintures. Vas-y, essaye de bouger dans la chaise. Tu peux bouger juste un peu, c'est ça? Essaye avec ta main droite. D'accord. Eh bien, Eric va rester comme ça pendant 2 heures au minimum.
Je ne me sens pas très bien.
Est-ce que ça te fait réfléchir?
Oui.
À quoi?
Je n'ai pas envie de commettre un crime ou quoi que ce soit.
On peut applaudir Eric.
Est-ce qu'on arrive à réhabiliter un délinquant de 25 ans ? La réponse est non, pas du tout. Réussissons-nous lorsqu'il a 18 ans ? Un peu mieux. Encore mieux s'il a 17 ans, et davantage encore s'il a 16 ans, et encore plus lorsqu'il a 10 ans. Chacun est d'accord là-dessus, mais personne ne fait rien. On pourrait gagner en essayant de réduire les problèmes, comme la grossesse des ados ou la pauvreté des banlieues. Les gens qui font des études sérieuses là-dessus le croient, mais on ne fait rien. Et pourquoi à travers le monde, même si je ne peux pas parler pour la France, pourquoi ne pas se mobiliser pour les jeunes de 0 à 17 ans, au lieu de s'intéresser à la population criminelle adulte ? Toutes les études sérieuses montrent qu'on obtient de bien meilleurs résultats si de l'argent et des moyens sont débloqués dès l'enfance, plutôt que d'attendre que les crimes ne soient commis.
La visite se termine toujours par une classe d'une heure très spéciale. Enchaînés, exhibés, les adolescents détenus sont interrogés par un procureur sur leur passé, leur vie en prison.
Je vendais de la drogue et j'étais arrêté. Au procès, on m'a jugé comme un adulte. Ils m'ont mis en bas dans une petite cellule pendant 3-4 heures avant de m'enfermer dans cette grande prison.
Ton anniversaire en prison s'est bien passé ? C'était un joyeux anniversaire ?
Non, monsieur.
Tu as eu un bon gâteau, tes parents, des cadeaux ?
Non, monsieur.
La nourriture est meilleure qu'à la maison ?
Grâce à ces visites guidées, selon les autorités, la criminalité dans la ville a baissé en 2 ans de moitié. Mais sans pour autant résoudre le problème de la drogue, en hausse de 70%. La drogue, cause principale de la délinquance juvénile en Amérique, comme ici, dans cette banlieue de Chicago, où la violence le dispute à la misère. 80 000 habitants à majorité noire, chaque année une dizaine de jeunes sont tués dans des bagarres d'ados. Ici cet été, deux petits garçons de 7 et 8 ans ont enlevé et tué une fillette de 11 ans. La police avoue son impuissance, les patrouilles à pied ont été supprimées, trop risquées. Régulièrement, le quartier s'embrase.
Il y a eu 13 personnes blessées dans ces immeubles. De l'immeuble 4444 à l'immeuble 4410, hier, toute la journée, ça tirait d'un immeuble à l'autre. Mercredi, il y a eu un petit enfant qui a été blessé. Il avait 8 ans. Ouais, blessé. Mais c'est hier, ça n'a pas arrêté de tirer.
Que faites-vous là ?
Moi, je suis un officier de police du second arrondissement de la ville. On a été envoyé ici en renfort pour réaffirmer la présence de la police, pour essayer d'appréhender des suspects. On cherche des armes.
Est-ce que ça va changer quelque chose ?
Non, je ne pense pas.
Solution extrême, tous les résidents de la cité sont fouillés dès qu'ils entrent ou sortent des immeubles.
C'est comme ça toute la journée.
Des détecteurs d'armes ont même été installés à l'entrée des immeubles. Cela ne change rien. Les policiers refusent toujours de s'aventurer seuls dans les étages où les gens vivent cloîtrés. Pour les aider, la brigade criminelle entraînée à la guerre urbaine. Seuls les inspecteurs recherchent sans mandat les armes et lorsqu'ils vont dans les appartements, voici ce qu'ils trouvent.
Alors ça, c'est une carabine automatique, un R15, et ça, un fusil à lunettes. À côté, on a trouvé cette radio, juste à côté des deux flingues, sur le rebord de la fenêtre. Tous les jours, les gosses d'ici se tirent dessus, d'un immeuble à l'autre, avec ces carabines lourdes. Ils peuvent viser n'importe qui.
Celle-ci, on l'a retrouvée sur le rebord de la fenêtre. Ils visaient des policiers qui se trouvaient en bas devant l'immeuble 4525. Ils communiquaient avec des talkie-walkie qu'on a retrouvés devant la carabine. Ça, on l'a trouvé dans l'autre pièce.
Contre cette spirale violence-répression des citoyens peu ordinaires, Jim, 41 ans, Bill, 63 ans. Ces missionnaires d'un temps nouveau sont prêts à mourir pour la paix des banlieues. Leur seule arme, un crucifix à la ceinture.
C'est un peu le style de Saint François d'Assise et de ses compagnons. Saint François portait comme vêtements de vieux tapis et il les cousait ensemble. Dans cet esprit, nous, on a pris des vieux jeans qu'on a cousus. C'est joli, c'est une couleur légère. En plus, le soir, on peut être vu de loin. Les jeunes savent qu'on est des hommes d'église. Ça les surprend pas mal de nous voir sur leur territoire.
Vous en avez vraiment besoin ?
Oh oui. On ne les porte pas tout le temps, mais quand il y a des bagarres, des tirs, oui, on en a vraiment besoin.
Pourquoi ? Pourquoi ?
Les gens savent que nous sommes des hommes d'église. On ne veut pas qu'ils nous prennent pour des policiers ou comme une menace. Nous, on veut représenter Jésus et l'amour qu'il a pour ces jeunes. C'est ce qui symbolise cet habit.
Jésus en jean.
Jésus en jean, comme vous dites. Est-ce que ma capuche est bien mise, là ?
Lorsque la cité s'embrase, eux seuls marchent entre les immeubles. Ils sont les seuls aussi à calmer les bagarres entre bandes rivales. 50 fois déjà, on a tiré sur Bill, 10 fois sur Jim. Protégés sans doute par la Providence, ces prêtres d'un nouveau monde n'ont jamais été blessés. Par leur seule présence, ils ont apaisé bien des fois la situation. Eux seuls aussi parviennent à apprivoiser les bandes de jeunes, à aller près des immeubles où plus personne ne va.
Nous sommes vraiment contents de vous voir.
Ouais, je me demande. Je vous ai téléphoné un jour.
C'est à cause de cette fusillade qu'on est là. Non, je plaisante.
Vous dites quoi, là ?
Non, je blague.
D'abord, il faut serrer la main de chacun. Les deux prêtres ont appris les signes de reconnaissance des bandes. Ensuite, on va dans les cages d'escalier pour écouter les adolescents en difficulté.
Quand vous allez à un entretien pour trouver du travail, si vous dites que vous habitez ce quartier, 9 fois sur 10, on vous jette. 9 fois sur 10. Bien sûr que je vends de la drogue. Je fais tout ce qui est défendu si je veux que ma famille mange. Si je vends de la drogue, encore une fois, c'est parce qu'il n'y a pas de boulot. Le gouvernement ne fait rien. La ville ne fait rien non plus. C'est pour ça que je n'ai pas le choix. Je garde l'espoir. Tant que je sais que Dieu est là, je reste cool. Je suis cool.
Ça dit beaucoup de choses. Et puis, il y a plein de bonnes choses en lui. Il fait confiance à Dieu. C'est très émouvant. On a de l'espoir pour eux. De l'espoir parce qu'ils peuvent s'en sortir. On doit comprendre ces jeunes qui sont dans cette situation. C'est tellement loin d'où je viens. Et ils nous regardent d'une autre manière. Il faut devenir un guide pour eux.
Par sa seule écoute, Frère Bill a sorti de la délinquance des centaines d'enfants. Contre la répression, il prône la tolérance et l'amour du prochain.
On arrive à envoyer des enfants à l'école. Quelques-uns ont même trouvé du boulot. Mais ce qu'il faudrait, c'est raser ces immeubles. Mon rêve, la solution serait que les gens vivent dans des communautés mélangées, des quartiers où on ne trouverait pas uniquement des gens pauvres. Par exemple, imaginez un quartier de 7 maisons. 4 seraient remplis de gens qui gagneraient un bon salaire. 2 autres seraient habités par des gens plus modestes. La dernière maison serait pour des gens vraiment pauvres. Mais ces gens-là auraient sous les yeux de bons exemples.
À défaut de pouvoir réaliser son rêve, Frère Bill sort les jeunes des cités et les emmène dans les quartiers riches.
C'est Beethoven, ça. C'est la symphonie numéro 9 qui est entre la 8 et la suivante. Enfin, il n'en a pas écrit d'autres parce qu'il est mort avant d'écrire la suite. Il en a juste écrit 9.
Il jouait de quoi ? Toutes sortes de trucs ?
Ah, il jouait plein d'instruments. Lorsqu'il a composé cette symphonie, il était sourd. Il a même essayé de diriger celle-là, mais il était sourd. Et l'orchestre faisait ce qu'il voulait parce qu'il savait que Beethoven n'entendrait de toute façon rien.
Après Beethoven, la visite d'une église. Scotty, ancien cambrioleur, vendeur de drogue à 20 ans. Au chômage, il ne se confie plus qu'à frère Bill. Avec lui, il découvre un autre monde.
Quand tu meurs...
Ah oui, c'est l'enfer.
Non, ça c'est le purgatoire. Non, l'enfer, c'est quand tu as été très mauvais. Et le paradis, c'est quand tu as été très bon. Le purgatoire, c'est l'endroit où une personne peut aller temporairement en attendant d'être prêt pour aller au paradis.
Vous vous sentez comment dans cet endroit ?
Plus relax. Plus relax.
Ça veut dire quoi ?
Relax. Plus en paix. Plus en paix. Quand je suis ici, je me sens plus en paix. J'ai pas besoin de m'inquiéter. Je pense plus aux fusillades ou à des trucs mauvais. Je laisse tout derrière moi. Dès que je quitte mon quartier, je sens que je quitte le mal pour aller vers le bien.
Bien loin de Chicago, dans le sud américain, les méthodes de frère Bill feraient ricaner. Ici, on ne connaît pas le mot réhabilitation. Face à l'augmentation de la délinquance juvénile, au Texas, on préfère le mot répression. Les jeunes sont jugés comme des adultes. On peut donc les envoyer en prison pour 40 ans. Larry, 16 ans, a fumé à plusieurs reprises de la marijuana. À l'heure où en Europe, on évoque la dépénalisation des drogues douces, au Texas, on risque la prison ferme. Larry vient d'une famille au chômage divorcée. Il comparaît devant un tribunal pour enfants pour usage de stupéfiants. Face à lui, un procureur et un juge, le juge Ellis, conservateur, chargé de la délinquance juvénile. Lui seul va décider de la sentence.
Vous êtes Larry James Boyle ? Levez-vous. C'est votre mère ?
Oui, monsieur.
Vous comprenez que si dans le futur vous êtes encore arrêté, jugé pour une affaire criminelle, ces faits et ce jugement seront inscrits dans votre casier judiciaire ?
Oui, monsieur.
Vous comprenez qu'avec ce qui vous est reproché, vous allez avoir votre permis de conduire suspendu pendant un certain temps ?
Oui, monsieur.
Avez-vous signé votre reconnaissance de culpabilité ?
Oui, monsieur.
Ce papier peut donc être admis comme preuve. Vous avez autre chose à dire ?
J'aimerais le voir subir un examen psychiatrique. J'aimerais aussi le voir condamné à la prison avant qu'il ne retourne dans sa famille, actuellement en difficulté.
J'ai discuté avec mon client, avec sa mère et aussi avec sa grand-mère. Et il n'y a aucune objection. Je leur ai longuement parlé au téléphone. Et Larry lui-même pense qu'il a besoin d'un examen psychiatrique.
Bon, compte tenu de tout ce que je suis en train de lire dans ce rapport, des problèmes qui existent à la maison, du fait que vous ne soyez pas allé à l'école, plus toutes les autres choses mentionnées par le procureur, je vais vous envoyer dans une prison spécialisée pour les jeunes de la région durant un an. Mais avec une remise de peine possible, si ça va mieux. Là-bas, vous subirez un examen psychiatrique et on verra si vous avez besoin d'une cure de désintoxication.
Make it quick. Come on. Now, come on.
Aux gens qui me regardent, j'ai envie de dire, essayez d'équilibrer les choses. Construisez quelque chose dans le système qui permette de réhabiliter ces adolescents. Parce que la grande majorité de ces ados, une fois réhabilités, vous ne les reverrez plus jamais devant un tribunal. On les réhabilite en les envoyant dans des cures de désintoxication, dans des centres où on leur apprend à gérer leur agressivité, leur crise d'adolescence. Ils ne commettront pas d'autres crimes. Mais dans le même temps, le système judiciaire doit régler le problème des adolescents qui agressent les gens dans la rue ou qui sont prêts à devenir des assassins. La société doit se protéger d'eux.
Comment c'est d'être comme ça?
C'est pas joli joli. Hein? Ça vous humilie, vous et votre famille. Ma famille a été humiliée. Ils m'ont aidé, mais je le voyais pas avant. Maintenant je le vois, c'est dur.
Vous avez des remords?
Parfois, oui. Je commençais à prendre de la drogue, c'était mon problème.
C'est notre problème à tous. Je suis plus dur dans ma tête.
Qu'as-tu fait?
J'ai fait le con pendant ma liberté conditionnelle.
Pourquoi?
Agression. Agression sur une petite fille.
Quel âge avait-elle?
11 ans.
Qu'est-ce que tu lui as fait?
Je ne peux pas le dire.
Une fois le verdict rendu, à pied, enchaînés, les adolescents sortent du tribunal et sont transférés à la prison.
Ça, c'est la nouvelle prison réservée aux adolescents.
L'une des prisons pour adolescents les plus dures du pays se trouve déjà en Arizona, un bagne des temps modernes. Partout des caméras de surveillance, mais elles décrivent bien mal ce que le shérif Joe Arpaio a créé ici. Dès l'entrée, des images d'un autre temps. La tenue rayée est obligatoire pour tous les détenus. Le shérif, élu par la population, a tout pouvoir. Il est très fier de ce qu'il fait pour lutter contre la violence juvénile.
Laissez-moi vous poser une question.
Oui, monsieur.
Vous emmenez ce type au tribunal?
Non, monsieur, on le transfère.
Et ils sont menottés différemment que les adultes? Quand ils vont au tribunal, il y a un ado qui s'est plaint.
Ça dépend qui est le détenu, quel type de crime il a commis. Toi, tu avances, tu te mets le dos au mur.
Le bagne compte plus de 2000 détenus. Au rez-de-chaussée, les adultes. À l'étage, les adolescents. Une salle de douche vétuste pour 20 prisonniers. Tout est interdit dans les cellules. Pas de télévision individuelle, pas de radio, de livres, de journaux. Et bien sûr, pas d'air climatisé. Pour les humilier davantage, les détenus portent des caleçons et chaussettes roses. Lorsque Joe Arpaio rend visite à ses clients, c'est généralement pour les narguer.
Tu veux rentrer chez toi,
hein? En présence de notre caméra, le shérif se veut débonnaire et paternaliste. Il est en fait le symbole de la droite la plus réactionnaire des États-Unis.
How you doing?
Comment ça va, les gars?
How are you? How you doing? How old are you?
Quel âge as-tu?
14 ans.
14 ans? Tu dois être le plus jeune type qu'il y a ici. Et pourquoi tu es là? Pourquoi tu es là à 14 ans?
Pour toutes sortes d'agressions.
Agression? Tu as tué quelqu'un?
J'étais drogué.
Toi aussi, tu as tué un flic?
Oui, mais je ne l'ai pas blessé.
Tu ne voulais pas le blesser, hein? Quelle ville?
Phoenix.
Phoenix? Et il t'a tiré dessus?
Non.
Tu as de la chance, hein? Pourquoi tu lui as tiré dessus?
J'étais drogué.
La drogue. La drogue. La drogue. La drogue. C'est la pire chose qui existe dans notre pays. Vous savez, si on pouvait arrêter la drogue, la moitié d'entre vous, les gars, eh bien, ne serait pas là, vous êtes d'accord?
Dans l'esprit du shérif, le bagne ne doit être ni un camp de vacances ni un hôtel 3 étoiles. Sa principale fierté, les repas servis aux détenus, les moins chers qu'on puisse trouver aux États-Unis, et pour cause.
Elle est comment, la nourriture?
Dégueu. C'est pourri.
Pourri? Les sandwichs à la viande sont pourris. Moi, j'adore la viande. Ils se plaignent de cette viande, mais c'est vraiment bon.
Moi, j'adore. Le déjeuner va arriver dans un instant.
Oh, vraiment? C'est le déjeuner qui arrive? Je peux l'ouvrir?
Allez-y.
Je peux le manger?
Allez-y.
Merci, mon brave. Je suis sûr que c'est très bon. Regardez. Des nachos. Une orange, c'est les oranges que les détenus vont cueillir dans les fermes. On leur fait ramasser les fruits gratuitement. Ça, ça a l'air joli. C'est quoi ce truc? Ah oui, un œuf. Ok, c'est pas si mal. Regardez tout ça. Vous pouvez me le tenir pour moi un instant? Voyons un peu quel genre de sandwich on leur donne. Ils n'arrêtent pas de dire qu'il n'y a pas de viande dedans. Et où est l'intérieur de cette chose?
C'est tout ce qu'ils ont.
Mais où est la viande?
Oh, vous n'avez pas de chance. Prenez-en un autre.
Oh, j'ai dû choisir le mauvais, alors.
C'est ce que les enfants disent. Il n'y a rien à l'intérieur des sandwichs.
Malgré la présence de notre caméra, il n'y avait rien non plus dans celui-là.
30 centimes le repas.
Ça veut dire quoi? 30 centimes, ça veut dire quoi?
Les repas nous reviennent à 90 centimes par jour. En général, dans toutes les prisons, c'est 10 francs le repas. Un seul repas. Ici, c'est 90 centimes pour toute une journée.
Pas question, en effet, pour le shérif de faire supporter aux contribuables, ses électeurs, l'entretien des détenus. À plusieurs reprises déjà, Amnesty International a dénoncé les méthodes jugées barbares du shérif. Dans la ville, il se murmure que deux détenus sont morts à l'intérieur du bagne suite à de mauvais traitements. Pour répondre à ses détracteurs, l'homme qui se veut le shérif le plus dur de l'Amérique est passé cet été 150 fois à la télévision. Mais nous avons trouvé un talent caché que vous ne connaissez pas.
For what is man, what has he got? If not himself, then he has not. To say the least, he could be pleased. Now I did it.
Le shérif ne s'en cache pas, il rêve d'un destin national, avec pour tout programme électoral ses méthodes pour dresser les jeunes délinquants. Et il ne manque pas d'imagination. Il y a un an, il a créé au sein du bagne un lycée, le premier du genre, une obligation, avoir de bonnes notes. De 6h du matin à 20h, crâne rasé, les jeunes prisonniers, toujours dans leur tenue de bagnard, apprennent avec des professeurs bénévoles l'histoire de l'Amérique, l'anglais, les sciences. Seuls les bons élèves bénéficient des remises de peine.
Vous savez qui est le shérif ici ?
Oui, on vous a tiré dessus quand vous arrêtiez un type. Vous avez essayé d'arrêter un conducteur sous et il vous a frappé.
Tu veux parler de ce coiffeur ? Et comment tu sais ça ?
C'était dans les infos.
Comment ça ? Tu regardes la télé ? Ils regardent la télé ? Et qu'est-ce qu'ils regardent ?
Disney Channel.
Vous savez, j'ai supprimé tout ce qui est violent à la télé, les fusillades, les gangs, la drogue, terminé tout ça. Pourquoi tu es là, toi, drogue ? Pourquoi tu es là ?
Cambriolage.
Et ma méthode des chaînes, qu'est-ce que vous pensez d'être enchaîné en permanence ? J'envisage bientôt de vous enchaîner tout le temps. Vous irez ramasser les poubelles dans les rues de Phoenix. Je vous ferai construire des maisons. Le jour où je déciderai de vous enchaîner, croyez-moi, ça va vous aider à bien apprendre au lycée. Vous allez être les premiers dans l'histoire à être enchaînés jour et nuit et avoir de bonnes notes au lycée parce que vous serez enchaînés. Des problèmes ?
Ça va nous changer en pire, on va perdre tout respect de soi.
Allez, je m'en vais, j'en ai assez de vous voir.
Faites gaffe, shérif, il y a une pétition contre vous.
Je me sens plus en sécurité ici que lorsque vous êtes dehors.
On te bottera le cul, shérif.
Vous auriez envie, hein, que quelque chose arrive au shérif.
Si rien n'arrive au shérif, les adolescents seront expédiés dans quelques semaines ici, en plein désert de l'Arizona où le thermomètre monte jusqu'à 50 degrés à l'ombre en été. Aucun baraquement en dur, rien que des tentes. Un camp disciplinaire créé il y a 5 ans, 1600 adultes y sont maintenus en détention. Pour célébrer le 5e anniversaire de sa prison en toile, le shérif a organisé une journée porte ouverte. À sa demande, ses bagnards lui ont fait un beau gâteau.
Vous n'auriez pas un vrai couteau ? Je dois manger cela.
Oui, vous devez goûter.
Alors donne-moi une cuillère. Chaque fois que je nourris les détenus, je teste la nourriture avant. Vous vous rendez compte de ce que je dois faire pour vous, les gars ?
Ah, shit.
Great. Delicious. C'est bon, hein, c'est délicieux.
Grand prince, il offre une part de gâteau à chaque détenu.
Thank you.
Mark time. Mark. Jenga. Forward. Mark.
Slow your march.
Selon les experts, les méthodes du shérif n'ont en rien diminué la violence. En septembre dernier, le shérif devait s'occuper de plus de 7000 détenus, dont 206 mineurs, un record absolu. Les États-Unis ont un autre record, celui des adolescents condamnés à mort pour crimes violents. Légalement aujourd'hui, dans la majorité des États où la peine de mort se pratique, on peut être exécuté dès 16 ans. Une solution imparable pour calmer la jeunesse, dit-on au Texas, où 26 jeunes sont dans le couloir de la mort. Comme la loi l'exige, un adolescent condamné à mort n'a aucun contact physique avec le monde libre. Tout se passe derrière une glace. John Duberry, 20 ans, condamné à mort à 17 ans. Accusé d'avoir tué le jour de Noël de 5 balles dans la tête, le directeur des admissions de l'université. Pour seul compagnon de cellule, le bruit assourdissant de la climatisation.
Est-ce que je pense qu'un jour je serai exécuté ? Eh bien, je prends la vie au jour le jour. J'espère pas, vous savez. Comme je l'ai dit, je prends la vie au jour le jour. Parfois, quand j'y pense, je ne suis pas effrayé par la mort elle-même, mais le fait d'être attaché à cette table d'exécution et le poison qui coule dans mes veines jusqu'à ma mort, ça me fait peur. Je pense à ce qu'ils feront. J'espère que ça n'arrivera pas. Mais j'ai mis ma foi en Jésus-Christ et c'est tout ce que je peux faire. C'est tout ce que je peux faire. Chaque jour, je lui demande. Chaque fois que je me réveille, je lui demande de me donner force et confiance et jusqu'à présent, il l'a fait. Ils n'ont pas réussi à me faire craquer. Et c'est ce qu'ils essaient de faire, vous savez, me faire craquer. Je ne suis pas prêt à abandonner. Chaque jour, je veux me battre pour ma liberté. Je veux faire tout ce qui est possible. J'espère qu'on n'arrivera pas à l'exécution. J'espère que quelque chose d'autre se passera.
Dans la famille de John, dans ce village du Sud, on prie pour son retour. En signe d'espoir, ses baskets devant la porte d'entrée. Sa mère divorcée, sa sœur au lycée et une tante au chômage se soutiennent. Aux visiteurs étrangers, on montre facilement les photos d'une vie brisée. John et son frère, condamnés lui aussi à perpétuité pour complicité du même meurtre. John et son chien, abattus par les policiers lors de l'arrestation. John et sa femme qui a divorcé après sa condamnation. John, aujourd'hui, dans le couloir de la mort.
It's killing me.
Ça me tue. Ça arrive au moment où je devrais voir mes enfants heureux, envisager leur avenir et devenir leur ami. Et ça, je ne peux pas le faire. Je n'aurai jamais de petits-enfants. Et je n'aurai jamais mes enfants avec moi. Je ne peux plus le toucher, jamais plus le toucher. La dernière fois que je l'ai touché, c'était pendant la sélection du jury. Entre deux gardes, il m'a agrippé et il a dit aux gardes, « Je veux embrasser ma mère. » J'ai touché sa main et c'est la dernière fois que j'ai pu toucher mon enfant.
Pendant des années, et surtout ici au Texas, le système judiciaire a été construit de telle sorte que les adolescents n'étaient jamais responsables de leurs crimes. Il y a eu une mode de la réhabilitation avec des programmes de toutes sortes. On a développé cette idée qu'il ne fallait pas sanctionner les jeunes. Et donc, dans la tête des jeunes, les lois ne s'appliquaient pas à eux. Sous prétexte qu'ils étaient des adolescents, ils pouvaient être des délinquants sans être inquiétés. Et maintenant, le fait que l'on voit des adolescents punis, condamnés à passer du temps en prison et parfois condamnés à mort, je pense que les adolescents peuvent le comprendre, et ce, bien plus que les adultes.
Faute d'argent, la famille de John n'a pu s'offrir d'avocat expérimenté. Aujourd'hui, si John ne trouve pas les dollars suffisants pour payer un avocat qui l'aide à faire appel, il sera sans doute exécuté dans les mois prochains. Et pourtant, tous les chiffres le confirment, la répression n'étant rien dissuasive. Depuis 25 ans, 172 adolescents ont été condamnés à mort aux États-Unis. Ce qui n'empêche pas de constater que les enfants meurtriers sont de plus en plus nombreux et de plus en plus jeunes. En mal d'un monde meilleur, la justice américaine n'a pour le moment aucune solution pour cette génération.